Serge Bernard est français, mais il vit depuis 35 ans à Munich, où il s'est installé avec sa famille en tant qu'agent général de prêt-à-porter pour l'Allemagne et l'Autriche. Il y a plus de 40 ans, ce philatéliste passionné d'histoire est tombé par hasard sur des images des Sokols tchécoslovaques. Depuis, il a rassemblé une des plus importantes collections au monde, consacrée à cette association de gymnastes, une collection de cartes postales, de vignettes, d'affiches, de photographies et d'autres documents encore, et qui pourrait dans le futur donner lieu à un musée. Car pour Serge Bernard, le mouvement Sokol a une histoire fabuleuse, mais mal connue des Tchèques. Il en a parlé à Magdalena Hrozinková dans la seconde partie de cette émission spéciale, en évoquant tout d'abord les débuts de sa collection.
Par hasard, j'avais acheté un lot d'une cinquantaine de cartes postales à un ami qui avait besoin d'un petit peu d'argent. Dans le cadre de la collection philatélique toujours, hein, il s'est trouvé que dans ces cartes, c'était des cartes spéciales, c'était toutes des cartes Sokol. Donc, deux cartes postales représentaient le sled de 1901 à Prague. J'étais fasciné par un stade rempli noir de monde et une multitude d'athlètes qui faisaient un exercice. Et ces deux cartes postales, vous savez, je suis français, j'ai qu'une culture moyenne, et donc l'histoire, je ne connais très bien que l'histoire de France. Et je me suis dit, mais attendez, qu'est-ce que c'est que la Tchécoslovaquie? D'abord, avant la Tchécoslovaquie, existait la Bohème, et la Bohème, c'était quoi? C'était pas beaucoup d'habitants. Et comment un petit pays comme ça a pu faire une telle manifestation sportive en 1901?
Alors, vous êtes d'abord intéressé donc à la Tchécoslovaquie, à la République tchèque, à son histoire, c'est ça?
Oui, enfin, plutôt d'abord au mot Sokol. Parce que autour de moi, dans le quartier athénique, il y avait des Tchèques. Et je leur ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je n'avais, je l'avoue, honteusement, jamais entendu parler du Sokol. Et je leur ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Ils me disent, bon, alors ils commencent à m'expliquer un petit peu. Ah, je dis, mais attendez, mais il y a des cartes postales qui sont magnifiques. En plus, il y avait de jolies cartes postales qui dataient à peu près de 1920, très jolies, très décorées. Je dis, mais attendez, mais c'est chouette, c'est très joli, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors ils m'expliquent un petit peu. Bon, alors j'essaye de comprendre. Et là, je suis rentré dans un processus d'étude du Sokol. Et alors, il y a une autre chose qui m'a surprise, c'est que tous les types autour de moi, qui étaient des Tchèques qui vivaient en Allemagne depuis plusieurs années, depuis assez longtemps, plus ou moins, enfin bref, eh bien, manifestement, ils n'avaient pas une approche comme je la voyais moi, à travers l'étude que je venais de faire. Alors bon, alors là, on est tombé dans les histoires politiques, le nazisme, le communisme, j'en passais des meilleurs. Mais j'aurais dit, mais attendez, ça c'est autre chose. À la clé, il y a tout un peuple qui s'est levé d'un seul coup pour dire non à une espèce de dictature, ça c'est beaucoup dire. La monarchie n'était pas dictatoriale, c'était une masse qui étouffait tout un peuple.
Est-ce que vous avez pu rencontrer les Sokol aussi en Allemagne?
J'ai rencontré les Sokol en Allemagne, à Munich. Il y a deux clubs qui, naturellement, comme tout club, se disputent. J'ai rencontré du Sokol à Prague. J'ai rencontré les Sokol en France, puisque j'ai fait des conférences en Allemagne, en France. Et dernièrement, j'en ai rencontré aux États-Unis, où je suis allé faire une conférence sur les Sokol, bien sûr, à Chicago, à Cicéron, naturellement. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ces gens. Et là, j'ai discuté. Là, on avait une plus grande approche historique, c'est vrai, qui était plus pointue.
Parlons maintenant donc de votre collection. Qu'est-ce qu'elle réunit exactement?
Ma collection donc a commencé bêtement avec des cartes postales. Et je me suis cantonné quand même à la recherche d'éléments papier. Ça veut dire des cartes postales, des lettres, des journaux, des livres qui concernent les Sokol. Et c'est un truc énorme que j'ai. Oh là là, il y a 38 ou 40 albums, je sais plus. J'ai plus de 6000 cartes postales, documents. C'est fou. Je dois avoir la plus grosse collection de vignettes Sokol qui a été faite à travers le temps depuis son origine, 1862, jusqu'à maintenant. D'ailleurs, j'en ai des récentes qui datent des États-Unis ou du Canada. C'est fou. Je ne sais pas trop tout. Des ouvrages, j'ai des ouvrages, j'ai plus d'une centaine d'ouvrages, des journaux, des revues, tout en, alors, en tchèque, en serbe, en slovène, en français, en allemand.
Est-ce que... qu'il a été difficile de se procurer toutes ces vignettes, cartes postales, tout ce que vous avez?
Oui et non. Alors là, on tombe dans le domaine de la collection. Il y a des choses qui sont extrêmement banales et que vous trouvez en quantité partout, sur tous les marchands, dans tous les magasins de cartes postales ou de choses comme ça, ou d'antiquités. Vous les trouvez de partout, qui n'ont qu'une valeur par leur beauté, par leur qualité, c'est tout. Qui n'ont pas de valeur réelle sur le plan du collectionneur. Par contre, il y a des choses rarissimes qui existent à un exemplaire, qui existent peut-être à deux ou trois exemplaires, des choses qui sont...
par exemple,
et qui date de j'ai eu une collection qui date de 1862. Il y a plein de cartes postales après qui se succèdent pendant tout le 19e siècle, avec tous les déboires, des sleds qui n'ont pas été faits, qui ont été annulés par la monarchie, ainsi de suite, enfin bref, tout un tas de trucs. Mais j'ai voulu faire quelque chose d'éducatif. J'ai voulu m'adresser surtout aux enfants. Et c'est pour eux que j'ai préparé cette collection d'ailleurs, où j'ai tout documenté, tout. J'ai fait des recherches en Croatie. J'ai trouvé des choses qui étaient totalement inconnues de tous mes collègues, enfin autant que j'ai pu savoir, de tous les Tchèques que j'ai rencontrés. C'est le Sokol bosniaque, le Sokol musulman. J'aurais découvert un journal du Sokol de Casablanca.
Et vous avez pu présenter cette collection aux enfants, puisque vous dites que c'est fait pour la jeune génération, surtout?
Non, j'ai jamais pu. J'ai exposé par deux fois ici en Allemagne, mais ça s'adressait dans un cadre philatélique uniquement. Mmh. Donc j'ai présenté ce qui pouvait plaire aux philatélistes, ça ne s'adressait pas du tout aux enfants. Non, toute ma collection est bâtie là-dessus, c'est-à-dire que si... Enfin, ouais, le rêve, alors là, on est dans l'utopie. Si j'arrivais à intéresser quelqu'un à cette collection, qu'il puisse créer un musée. Un musée, et tout est organisé pour que ce musée soit adapté aux adultes et aux enfants.
Donc vous imaginez un musée qui où pourrait être installé votre collection. Quel sera son futur?
Son futur de la collection, alors c'est toujours la même histoire. Cette collection, quand même, depuis 40 ans, m'a coûté beaucoup d'argent. Vous pouvez l'imaginer sans peine, évidemment. Ce que je souhaite, moi, c'est la vendre. Bon, évidemment, j'en voulais un certain prix. Je m'aperçois que, le temps passant, je ne la vendrai pas le prix que j'espérais. Bon, je finirai par la vendre à celui qui m'en offrira le plus.
Est-ce que vous avez essayé de contacter des institutions tchèques? Et vous avez des acheteurs potentiels dans d'autres pays?
Bon, j'en ai parlé aux Américains, qui, bien entendu, ne se précipitent pas. J'en ai parlé aux Français, moi, en but sur le prix. Bon, n'importe comment, à la fin, je suis...
Donc c'est partout pareil, en fait, dans tous les pays.
Enfin, quand c'est pas seulement tchèque.
Et quel est, d'après vous, alors, le rôle le plus important de Sokol?
C'est d'avoir donné au peuple tchèque une idée de son unité. C'est d'avoir réussi à les grouper pour leur fierté, à les grouper pour leur dignité, à les grouper en leur démontrant qu'ils n'étaient pas seulement que les domestiques ou les cochers des Autrichiens, c'est-à-dire des Germains. Mmh. Ils ont donné au peuple ce que n'avaient pas su faire les éveilleurs. Parce que les éveilleurs étaient restés des intellectuels entre intellectuels. Ils n'avaient pas touché le peuple. Mais Tirche et Fugner, par leur initiative, vont toucher directement la petite bourgeoisie. Chocol, il y a une quinzaine de villes où sont créées des associations Chocol. Il faut voir ce que c'était à l'époque, avec toute la monarchie contre ça, qui essayait de les empêcher de le faire. Vous savez, il y a un autre aspect aussi qu'on a un peu escamoté du Chocol. On parle de Masaryk. Dieu sait si Masaryk, c'est un homme respectable et admirable. Mais il a réussi son opération de présentation et de création de la République tchécoslovaque grâce au Sokol. Et si Masaryk a réussi à aller aux États-Unis et à pouvoir y faire et y tenir le langage qu'il y a tenu et aussi de pouvoir y vivre là-bas, c'est grâce à l'argent du Sokol. Et dans un pays qui ne savait même pas ce que le mot démocratie voulait dire, on fait une république. Et ça a marché, pourquoi? Parce que il y avait tout un tissu de la société tchèque qui était tenu par les Sokol. Chaque Sokolovna devenait un centre de discussion, d'information et même de